On est tellement content de se retrouver, d'être ensemble ce matin. J'aimerais juste partager une pensée juste avant ce qui s'impose à moi pendant ce temps de louange. J'entendais vraiment comme ce tic-tac, tic-tac, comme dans l'oreille. Et j'ai l'impression que pour quelqu'un, c'est comme si tu as l'impression que ton heure est comptée ou que tes jours sont comptés. Et j'aimerais prier pour toi maintenant, au nom de Jésus, que tu sois libéré de toute peur d'une maladie grave, toute peur de la mort, au nom de Jésus. Je refuse ce mensonge comme quoi ton heure est comptée, que tes jours sont comptés, au nom de Jésus. Sois libéré maintenant, au nom de Jésus, de cette boîte de crainte qui t'empêche de vivre aujourd'hui dans une pleine liberté, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand on s'approche du Seigneur, il est là pour nous amener la vie, pour nous libérer, pour nous toucher. Génial. Merci au Seigneur pour sa présence, qu'on a pu le louer. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps, vraiment pour louer le Seigneur. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez pu avoir un peu de vacances cet été, aller un peu là où il fait un peu plus chaud qu'ici, pour un peu se dépayser, se ressourcer. Mais des fois, ça fait du bien de par la tête dans le guidon tout le temps, de prendre un peu du recul, de voir autre chose, plutôt que d'avoir toujours notre to-do list et tout ce qu'on doit faire tous les jours. Pour notre premier culte de reprise, il y a 15 jours, on a pu entendre des témoignages de vie qui étaient tellement encourageants, d'ailleurs on peut les écouter sur le site, avec des exaucements de prières, vraiment des guérisons, des vies transformées, et c'est vraiment encourageant. C'est ça, l'évangile, c'est pas des théories, mais c'est quand Dieu est en action aujourd'hui et qu'il agit. Est-ce qu'on avait à cœur pour lancer comme cette deuxième partie d'année, pour ces deux cultes qui viennent maintenant, toujours dans cette ligne qu'on a un peu pour cette année, de resserrer les liens, d'étendre nos cordages, c'est de partager le cœur de Dieu pour l'Église en général, et de ce que Dieu a mis dans notre cœur aussi pour l'Église Passion. Ça sera un peu comme un message en deux parties. Tout d'abord, aujourd'hui, où je vais pouvoir vous partager pourquoi Dieu a inventé l'Église, en fait. Et puis ensuite, j'espère que je trouverai la petite intrigue, comme dans les séries Netflix, où ça finit juste, et puis on a envie de voir le deuxième épisode, comme ça on vous retrouve dans 15 jours. Où on parlera plus spécifiquement de ce qui brûle dans notre cœur aussi, qu'on a envie de vivre ensemble en tant qu'Église Passion, la vision, la direction. D'ailleurs, dans 15 jours, on prendra aussi après un petit temps d'infos plus pratiques sur le fonctionnement et autres dans la suite du culte. Ensemble, c'est le titre de ce message ce matin. Mais pourquoi est-ce que Dieu a prévu le ensemble? Pourquoi est-ce qu'il a prévu l'Église, puis pas juste un individu, ou bien des poignées de gens par-ci, par-là? Et en fin de compte, on pourrait se dire, ma propre relation avec Dieu, elle suffit. Pourquoi est-ce qu'il faudrait une Église? Pourquoi faudrait faire partie d'une Église? Et comme souvent, moi j'aime bien venir au tout début pour comprendre quelle est l'intention de Dieu au départ. Comment il est et comment il fonctionne. Et ça, on voit souvent au tout départ de la Bible, dans la façon dont il a imaginé les choses. Et si Dieu a inventé l'Église, c'est déjà parce que Dieu a toujours eu un plan très cher à son cœur, la famille. Dès le départ, Dieu a fonctionné, donc lui-même, en famille, et pas en solo. Dieu a créé l'univers, le ciel, la terre, en famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, si ce n'est pas une famille, ça, ils l'ont fait ensemble. Et le tout premier verset de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et la plupart du temps dans la Bible, quand il est parlé de Dieu, il est écrit l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau en grec, il est mis Yahvé, qu'on traduit souvent par Dieu, par l'Éternel en français, et ou alors il y a des noms de Dieu qui représentent des différentes facettes de Dieu, comme El Shaddai, qui est Dieu Tout-Puissant, ou El Rapha, Dieu qui guérit, et il y en a d'autres, ce n'est pas le message ce matin. Mais dans ce premier verset, le terme utilisé, c'est Elohim, qui est un pluriel qui veut comme dire un peu les dieux. Et on pourrait presque voir, et ça c'est une interprétation à ma sauce, mais aussi vu qu'on est à Neuchâtel, c'est comme ça, où on dit, quand on parle d'une famille ou d'un couple, on dit « les Dubois », on dit « les tel et tel », alors on dirait les dieux ont créé la famille, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Elohim, ils ont créé ensemble la terre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ils auraient pu avoir chacun leur tâche, Dieu le Père fait ceci, le Fils il vient quelques milliers d'années plus tard, le Saint-Esprit encore autre chose. Non, ils ont fait ensemble, le Père qui déclare les choses et Jésus qui est cette parole qui agit, comme on le voit dans Jean 1, où il est dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Et la parole mentionnée ici fait référence à Jésus qui est la parole, qui était avec Dieu le Père dès le début et qui a participé à la création. On le voit aussi dans Colossiens 1,16 où il est dit « Par Jésus ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Dès le départ, il était là. Ce n'est pas juste à Noël qu'il est venu. Le Saint-Esprit était aussi présent dès le départ. Il est dit dans Genèse 1,2 que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et aussi, quand Dieu crée l'homme, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Vous avez sûrement peut-être déjà entendu ça, et pas dit « à mon image ». On n'est pas juste comme Dieu le Père. On a cette facette du Père, du Fils, aussi du Saint-Esprit. On est d'ailleurs aussi corps, âme, esprit. Ensemble, ils ont créé la terre. Ensemble, ils nous ont créés. Et il y a un mystère dans ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois en un, mais il s'agit de trois personnes en un avec une interaction. Ils parlent ensemble, ils collaborent ensemble, ils agissent ensemble. La création de l'univers, c'est une histoire de famille. Et qu'est-ce que Dieu crée ensuite? Est-ce qu'il crée un seul être sur la terre? Non, il est dit plus tard, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors il crée un couple et une famille. Et là aussi, on voit que le plan de Dieu, il est plus large qu'un seul individu. C'est la famille Adam. Pas la famille Adam, il ne faut pas confondre, mais la famille Adam est la première famille qui naît. Et plus loin, on voit que Dieu a un plan, pas juste pour un individu ou une famille, mais il a un plan pour un peuple. Et lorsque Dieu a choisi un peuple, Israël en l'occurrence, c'est bien plus que l'appel d'un individu qui réussit. C'est bien plus que la bénédiction d'Abraham, puis de son fils Isaac, puis de son fils Jacob, ou petit-fils Jacob. D'ailleurs, combien de fois il est parlé dans la Bible du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Et ça va au-delà de l'aspect de l'individu, de la lignée de famille. Et quant à la formation du peuple d'Israël qu'il a choisi, il ne s'agit pas juste de l'appel d'un gars qui s'appelle Jacob, dont son nom a été changé en Israël, mais bien de lui et de ses 12 fils, qui seront les 12 tribus. Et ils formeront ensemble un peuple, ensemble. De nouveau, il y a cette notion d'ensemble. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu va venir marquer l'histoire en amenant un plan de salut, de nouveau, il va agir en famille. Le Père va envoyer son Fils qui va agir sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, le Père envoie son Fils dans une famille. Jésus va grandir avec comme parent adoptif, pour le dire comme ça, Joseph, Marie, ses frères et sœurs. Le Père, il aurait pu envoyer Jésus qui débarque à 30 ans sur le mont des Oliviers, comme quand il reviendra d'ailleurs. Non, il ne l'a pas fait comme ça. Et Jésus aurait pu commencer avec fracas son ministère, bouleverser cette génération, la terre, être ce Messie, ce Sauveur tant attendu. C'est comme ça d'ailleurs que les gens s'imaginaient qu'il allait venir un peu. Mais non, il naît comme un bébé dans une famille et c'est dans le cœur de Dieu. Et pour en revenir à la famille de Dieu, le ministère de Jésus, il commence aussi qu'à partir du baptême de Jésus, qui est le coup de départ, non pas solo, de Jésus qui tout à coup se dit « Ah ben tiens, ça serait le moment que je commence à m'y mettre ». Non, mais avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit en action. Le ministère de Jésus est le coup de départ de nouveau de l'ensemble, ensemble. Pourtant, ça fait 30 ans, ça m'a frappé en préparant ce message, ça fait 30 ans que ça dure. Mais il attend quoi, Jésus? Il attend quoi? Il sera sur terre 33 ans, mais il a attendu 30 ans. Il ne faut quand même pas perdre son temps sur terre. Il y a tous ces malades, tous ces pauvres, tous ces gens démonisés. On n'imagine pas combien Jésus en a croisé pendant les 30 premières années de sa vie. Bien plus que pendant les 3 dernières. Mais Jésus ne s'est pas précipité en fonction des besoins. Il ne s'est pas précipité en fonction des besoins, il a attendu le signal. Le signal collectif du Père, Fils et Saint-Esprit, ensemble. Et le baptême est le départ. Et le départ. On voit bien d'ailleurs dans ce baptême la famille de Dieu en action. Jésus qui est dans l'eau et le Saint-Esprit qui vient, il est même dit presque corporellement, ça ressemblait comme à une colombe. Et il y a une voix audible qui est celle du Père qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et c'est à partir de là qu'il y aura un déclic dans sa vie. Et de nouveau, il y a l'ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit en action. La famille de Dieu au démarrage du ministère de Jésus. Puis après ce baptême familial, pour dire ça comme ça, si j'ose dire, Jésus aurait enfin pu commencer son ministère depuis le temps. comme on a vu, ça fait 30 ans qu'il attend. Il doit être impatient d'agir. Hein. Il a plein d'idées et il y a tellement de gens dans le besoin autour de lui. Ça fait 30 ans, non pas qu'il entend des messages, mais qu'il est baigné dans la parole de cette attente du Messie. C'était toute une culture. Les gens lisaient ça dans les synagogues. Il y a cette attente du Messie. Et lui, ça fait 30 ans qu'il sait qui il est. Il sait l'appel qu'il a. Et pourtant, il ne va pas commencer solo. Et contrairement à ce que dit le philosophe du 15e, Niccolo Machiavelli, qui a dit que la fin justifie les moyens, d'ailleurs, il donne son nom à l'adjectif machiavélique, c'est-à-dire arranger les bidons pour arriver à ses fins, j'aimerais dire ce matin que la fin, elle ne justifie pas les moyens. Le but ne justifie pas les moyens. Les besoins ne justifient pas les moyens. Et pour le démarrage du ministère de Jésus, à nouveau, on voit le cœur de Dieu pour le ensemble. Ensemble, il n'a pas commencé son ministère solo. Il a attendu 30 ans. Et ça, malgré la voix du Père dans le ciel et du Saint-Esprit qui était carrément pas juste quelque chose de ressenti, mais comme physiquement, comme un oiseau. C'est fou. Et pourtant, il semblait que toutes les conditions étaient réunies. Il aurait pu dire « Dieu m'a dit, le Père m'a dit ». C'était même une voix audible, vous l'avez tous entendu. « J'y vais, je fonce ». Personne n'aurait pu mettre ça en question. Et s'il y en a un qui aurait pu agir comme ça, c'est bien lui. Non. Avant de démarrer son ministère, il a formé une équipe en choisissant 12 disciples. Il y a la notion de groupe, de famille spirituelle. Il y avait le vivre ensemble, le prier ensemble, le agir ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus a commencé son ministère. Pourtant, on aurait pu se dire, lui, le king, ben oui, le roi des rois, ben, il y avait de quoi aller tout seul. Dieu m'a parlé que ceux qui m'aiment me suivent. Non, Jésus a formé une équipe avec tout ce que ça implique. Et c'est toujours plus facile, ça aurait été peut-être bien plus facile pour lui de faire seul, mais il s'est entouré de gens plus imparfaits et pas imparfaits les uns que les autres. On pourra le voir dans la série The Chosen qu'on va diffuser ensemble au cinéma dès cette semaine, où on se rend compte de l'humanité de l'équipe. Vivre l'équipe implique vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils ont passé du temps ensemble avec les disciples, Jésus? Ils ont mangé ensemble, ils ont prié ensemble, ils se sont organisés ensemble. Par exemple, quand il y a la multiplication des pains, ils s'organisent en endroits, etc. Agir ensemble, ils ont dû se voir, communiquer, chercher Dieu. Et dans le cadre des disciples, ça a provoqué des étincelles. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus, il a fonctionné, qu'il a commencé son ministère. C'est une famille, quelque part. Mais ce n'est pas encore l'Église, vraiment. On y arrive bientôt. Mais en préparant ce message, j'ai vraiment été comme époustouflé de réaliser ça. C'est qu'il aurait pu agir depuis longtemps, pendant 30 ans. Et au jour d'aujourd'hui, où il est prôné justement ça, l'individualisme, la réussite personnelle, le succès personnel, au niveau du monde, mais même au niveau chrétien. Ma vie, mon appel, ma destinée, ma réussite. Et avant d'aller plus loin, c'est fondamental de comprendre le cœur de Dieu pour chacun, mais aussi son cœur et son ADN au niveau d'une famille spirituelle. D'une famille spirituelle. Il y a telle commande qui patine un peu, je pense qu'elle a un peu froid. Dans 1 Jean 3:1, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Enfant, ça implique quoi si on est enfant de Dieu? Ça implique qu'il y a d'autres enfants, puis qu'il y a des frères, des sœurs, qu'il y a un père. C'est une famille. On est une famille. Et Éphésiens 2:19, au nom de Jésus. Ah voilà, ça va tellement vite dès qu'on prie, ça a sauté tous les slides d'un coup. Voilà. Dans Éphésiens 2:19, il est dit, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Et le verset suivant, il est dit dans 1 Timothée 3:15, et ça va venir, il est dit, la famille de Dieu, la famille de Dieu, c'est l'Église. La famille de Dieu, c'est l'Église. Et on y est au plan de Dieu. Une famille spirituelle, l'Église. Voilà le plan collectif que Dieu a pour chacun. Alors qu'on se tourne vers lui, on devient enfant de Dieu, on a des frères et sœurs et on est une famille. Et en premier, Jésus est venu sur terre et a accompli sa mission. Et sa mission première, c'était quoi? C'était d'être cet agneau parfait qui allait donner sa vie, qui allait prendre place pour nos péchés, pour nos maladies. C'est le message de la croix. Mais il est aussi venu pour inaugurer une alliance nouvelle, un nouveau temple, l'Église. C'est-à-dire frappant dans cette optique-là de réaliser de cette manière-là, quand il est mort, avant qu'il ressuscite 3 jours après, le voile s'est déchiré en deux, de haut en bas. Et le signe, c'est le symbole de ce qui nous séparait de Dieu, qui s'est ouvert. On a de nouveau accès, comme on l'interprète souvent, et c'est juste accès pour aller vers Dieu tel qu'on est, imparfait, où il nous lave, il nous gracie, il nous pardonne, il nous libère. Mais je trouve fort aussi que c'est précisément ce voile du temple qui se déchire, qui met fin quelque part à un ancien système de culte et de temple qu'avait dans l'Ancien Testament. Et la suite nous dit dans Hébreux 10, les versets 19 à 21, on va y venir, voilà, où il est dit « Nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Par ce voile déchiré, non seulement on a accès au lieu très saint, tous, mais Jésus, ce grand prêtre, celui qui intercède pour nous, celui qui fait le sacrifice carrément par sa vie, est à la tête de cette maison de Dieu. Jésus est venu sur terre pour offrir sa vie, il est venu pour offrir sa vie, et pour que son ministère continue par l'Église, et pour que son ministère continue par l'Église aussi. Et la maison de Dieu, dont il est la tête. Et lorsque Jésus demande à ses disciples qui il pense qu'il est, et peut-être, Claude, tu peux peut-être avancer toi-même, ben, j'arrive pas, je te ferai peut-être signe, voilà, merci. Lorsque Jésus demande à ses disciples, vous pensez que je suis qui? Pierre répond, on le voit dans Matthieu 16, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, il continue, puis il lui dit, mais t'es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que c'est pas une pensée humaine qui t'a été révélée, mais c'est une révélation du Père Céleste. C'est vraiment une révélation du Père. Et Jésus poursuit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce rocher, sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, est-ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Et celui qui bâtit son Église, celui qui bâtit son Église, c'est Jésus lui-même, c'est son idée, c'est lui qui le fait. C'est pas une invention des hommes où on se dit, ben voilà, tout à coup les hommes, ils ont dû organiser le truc par eux-mêmes. C'est une idée de Jésus. Et comme Pierre avait cette révélation du Père que Jésus était le Sauveur, le Seigneur, ben sur ce fondement-là, il bâtit l'Église avec les pierres vivantes que nous sommes nous. Dans Éphésiens 2:20, ça explique exactement le plan de Dieu, l'Église. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. En fait, c'est un résumé de l'Église. Jésus est la pierre de l'angle qui bâtit sur le fondement des ministères qu'il place et on est tous des pierres vivantes et ensemble, on forme une maison où il amène sa présence. Et ça, c'est concret. Et après sa résurrection, Jésus va donner des pistes concrètes pour que cette Église, elle naisse. Et il leur dit de se réunir ensemble, et puis aussi là, d'attendre le signal. Et ils vont se réunir, ils étaient plus d'une centaine, 120, dans un local, et attendre le signal, le Saint-Esprit qui allait venir, qui s'est manifesté. Or, il ne s'est pas manifesté sur chaque personne là où ils habitaient, mais alors qu'ils étaient rassemblés ensemble. Et on voit dans Acte 2, vraiment un mouvement collectif du Saint-Esprit sur l'ensemble. Tout ce qui se passe à la Pentecôte, du coup. Et les gens commencent à entendre qu'il se passe quelque chose, les gens viennent, et du coup, Pierre commence à prêcher. Et il prêche, et dans Acte 2, 41, il est dit, « Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000. » Suite à ça, les gens commencent à se réunir, et la première église est née. Et dans Actes 2, 42, on voit qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans le relationnel, la communion fraternelle, aussi dans la Sainte Cène, la fraction du pain, dans les prières. Puis plus loin, on voit dans au verset 47 qu'ils louaient Dieu, ils avaient tant de louanges aussi, et avec la faveur de tout le peuple, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et la première Église est née, et il y en aura d'autres. On le voit à Antioche, dans Actes 11, 26, Barnabas va chercher Paul pour l'amener à Antioche, puis il est dit, pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Puis la même chose à Éphèse, on a lu avant le texte écrit aux Éphésiens, on voit que l'Église est organisée sur les ministères mis en place, vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, la pierre principale, puis vous êtes ces pierres vivantes. D'ailleurs, 1 Pierre 2,5, voilà, au prochain slide, 1 Pierre 2,5 nous dit « Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit-Saint et vous formerez une communauté de prêtres saints. » On est tous quelque part des prêtres dans le sens qu'on est tous à adorer, à élever Dieu, à le servir. Nous sommes tous des individus avec notre propre vie, avec notre appel, avec nos dons spécifiques. Mais tout, comme toujours, Dieu, il a une intention collective. Et ces pierres, ensemble, forment une maison. Son but, ce n'est pas juste d'être un super tailleur de pierres pour faire de chaque petite pierre juste une œuvre d'art. Bien qu'il le fasse, on est tous des merveilleuses créatures. Mais il a envie qu'ensemble, on forme une maison. Il a une destinée de l'ensemble, comme dès le départ, où il peut se manifester. Et une autre image utilisée dans la Bible pour la raison d'être de l'Église, prochaine slide, c'est « l'Église est un corps ». Et il l'est mentionné dans 1 Corinthiens 12, où il est dit qu'on forme ensemble un corps, que chacun en est différent. Et là, de nouveau, il est mis qu'il établit sur les ministères, mais que tous ont un don pour l'édification de l'Église. Il est parlé des dons de guérison, le don d'aptitude à secourir, à aider, à diriger, le parler en langue, etc. Chaque membre du corps est important. D'ailleurs, si vous êtes déjà une fois cassé un orteil, c'est tout petit. Mais qu'est-ce que ça empêche même de se déplacer dans son propre appartement? Donc imaginez pour aller de l'avant. Donc, si on reprend l'image du corps pour l'Église, un seul membre qui manque, ça a son effet. Et j'aime bien utiliser l'image que j'ai déjà soit utilisée personnellement ou ici, ou dans les réunions de prière qu'on avait. Imaginez si un ennemi, face à l'ennemi, on a envie de donner un coup, ben une tape de la main ou bien même une chiquenaude du doigt, juste un membre, ça ne fait pas grand-chose, une petite tape de la main non plus. Mais si le corps entier met le mouvement, l'impact est beaucoup plus grand que juste une personne ou un petit groupe. Si le corps entier fait le mouvement, j'hésitais à demander à quelqu'un pour faire l'exemple, mais non. Mais c'est un mouvement du corps et il y a une force tellement plus grande quand le corps entier agit. Puis pas juste une personne dans son coin ou juste un petit groupe dans son coin, mais que le corps entier, il y a un élan entier. Et au final, la Bible nous dit que Dieu ne vient pas chercher juste des individus, une multitude, mais il vient chercher une épouse. Il vient chercher une épouse, c'est l'Église. Dans Éphésiens 5, l'amour d'un mari pour son épouse est comparé à l'amour de Jésus pour qui aime l'Église. On le voit là dans le verset qui va s'afficher, c'est... Voilà, où il est dit au 25, « Marie, Éphésiens 5, 25, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Il compare l'amour de Jésus à l'amour du mari pour son épouse. Et dans Apocalypse 22, 17, il est dit aussi que l'Esprit et l'épouse, l'Esprit et l'Église ensemble, ils disent « Viens, Seigneur Jésus, c'est le moment que tu reviennes, viens !» L'Église et le Saint-Esprit appellent au retour de Jésus. Et dans l'Apocalypse, il est également parlé des noces de l'agneau. Et ces noces de l'agneau, c'est les noces de Jésus et de l'Église et de l'épouse. Et on n'en parle pas forcément très souvent, mais il a une destinée, pas juste pour toi et moi, mais ensemble en tant qu'épouse. Et l'Église est dans le cœur, l'Église est dans le cœur de Jésus, comme dans le cœur d'un fiancé qui a hâte de se marier. Il a l'empressement encore plus grand dans son cœur. Vous êtes déjà allé vers un futur marié pour lui faire des remarques sur sa fiancée, qu'elle est trop ceci ou pas assez cela? Comment est-ce qu'il réagit? Si on n'aime pas l'Église, allez parler à son fiancé, vous verrez ce qu'il dit. Il aime. La Bible nous dit même qu'il a comme un feu dévorant de jalousie pour son peuple, pour son Église, dans ce Nouveau Testament. Et je crois que Jésus, cet époux, il aime cette Église, même si elle n'est pas encore parfaite et qu'elle est en formation. Donc même si Dieu a une destinée pour chaque personne, pour toi et moi, il y a cette notion de famille, il y a cette notion d'équipe, il y a cette notion de faire ensemble. C'est dans l'ADN de Dieu. On l'a vu dès le départ. La force de Jésus, lorsqu'il était sur terre, c'était de faire, comme je l'ai souvent plein de fois dit, était de faire ce que le Père faisait. Et moi, c'est ce que j'ai envie. Parce qu'il y a une force, il y a une puissance lorsqu'on se réunit, et ce n'est pas pareil que lorsque chacun vit sa foi de son côté. Même vivre l'Église virtuellement. C'est comme l'a dit, je pense, je ne sais pas, 150 ans environ, je n'ai pas noté l'année, donc je peux me tromper de 50 ans ou de 100 ans, ce n'est pas grave. Le revivaliste Moody, Dwight Moody, il a dit, à l'époque, hein, mais on pourra le transposer à maintenant, la différence entre écouter un sermon à la radio, vous savez, la radio c'est un appareil qu'on pouvait tourner avant. Voilà. Donc la différence entre écouter un sermon à la radio et aller à l'église est pratiquement la même entre appeler votre chérie au téléphone ou passer une soirée avec elle. Et aujourd'hui, on pourrait dire, parce qu'il faut quand même être à jour, la différence entre regarder un message sur YouTube ou aller à l'église, c'est la même différence qu'entre passer une soirée avec son conjoint par WhatsApp, par FaceTime ou par Zoom, ou bien toutes les plateformes qui existent, ou bien de passer vraiment la soirée avec. Si vous voyez ce que je veux dire, d'expérimenter Dieu, c'est tellement ça. Quand votre conjoint est à l'étranger, par exemple, c'est tellement cool, c'est génial de pouvoir faire ces appels vidéo. Ce n'était pas le cas avant, c'est super. Un bon message sur YouTube, c'est génial. Je ne vais en tout cas pas dire le contraire. Mais rien ne vaut les retrouvailles quand on est ensemble, frères et sœurs, et ensemble avec la présence de Dieu. Il a prévu la famille. Il a prévu le rassemblement d'hommes et de femmes. Il a prévu des frères et sœurs, famille. Il a prévu des ministères pour nous encourager, nous exhorter, même peut-être nous reprendre le cas échéant. Et moi, je désire être cette épouse, faire partie de cette famille aussi, et pas juste être un individu chez moi. Et cette Église, ce n'est pas juste une nébuleuse mondiale rassemblant tous les croyants de la planète. L'Église du monde entier. Et finalement, l'Église, ça serait juste l'ensemble des chrétiens du monde, quoi, autour du globe. Non, dans le Nouveau Testament, on voit que Paul, il ne parle pas juste aux chrétiens de la terre, comme tous les chrétiens de la planète, mais il parle à des églises locales. Il parle à ceux de Corinthe, il parle à ceux d'Éphèse, il parle à ceux de Rome, etc. Et les gens se réunissaient dans les maisons. Et les maisons de l'époque, on en avait une fois parlé au tout début, on était là pour la vision de l'église au tout départ, mais les maisons à l'époque de Rome, quand on dit « Ah, c'était des églises de maisons », mais elles pouvaient accueillir plus de 100, 200, même 300 personnes. Ce n'était pas un trois pièces au quatrième étage. Ils avaient de la place, des belles églises dans le Nouveau Testament. C'était ça, des belles églises locales. Et Paul parle à ces églises locales, et je ne pense pas que c'est juste par hasard, les livres qu'on a dans le Nouveau Testament. Et dans l'Apocalypse, Dieu parle non pas juste à l'église épouse, avec toutes ses qualités et ses défauts, mais il parle aussi aux sept églises. Et on a parlé de famille avant, que c'était le plan de Dieu. Une église locale est une famille, avec une vision, avec une couleur aussi, avec un fonctionnement. Et ce qui compte, c'est d'être et de vivre et de fonctionner en fonction de l'appel de Dieu. Et dans le monde naturel, il y a beaucoup de familles. Toutes sortes de familles ont des fonctionnements, des couleurs différentes. Toutes nos familles, elles ne sont pas pareilles. Il y a des accents différents dans les familles, d'autres fonctionnements, d'autres façons de communiquer, d'organiser les nettoyages, de vivre les loisirs, les buts à vivre. Il suffit de partir en vacances à deux familles, puis vous allez voir que c'est bien différent, pour le meilleur et pour le pire. Chacun est différent comme on fonctionne. Ça ne veut pas dire que l'un, c'est mieux forcément que l'autre. On doit s'adapter. Et je pense que c'est la même chose. Une famille spirituelle, une église locale, c'est pas toujours, il n'y a pas forcément qu'une seule façon de faire, mais c'est une culture aussi de famille qui est là. Un enfant, je crois que c'est Shelley qui a parlé dans un message, un enfant qui visite une autre famille, il sera tout surpris de voir qu'on peut faire autrement. Puis parfois il dira, ah, ben, c'est bien mieux ailleurs. Des fois, ça paraît toujours mieux. L'herbe toujours mieux, peut-être des fois ailleurs. Mais l'église est une famille et il y a un appel de base, je pense, pour toute l'Église en général. C'est d'annoncer l'Évangile, c'est de baptiser, de former des disciples, de grandir en maturité, perfectionnement des saints. C'est des principes de base au niveau du fonctionnement qui peut être aussi bien ou des fois même moins bien. C'est clair, ça ne sera jamais parfait. Par exemple, une chose qui est saine et qui est bonne, c'est la redevabilité les uns envers les autres, envers les ministères. C'est génial quand c'est bien vécu. Il faut que ça soit libérateur, sinon c'est contrôlant et malsain aussi. Mais dans une famille, il y a aussi des couleurs, des buts, des visions, une spécificité qui vient en fonction du mandat, de l'appel, de la vision que Dieu nous a dit, nous a demandé aussi au départ pour l'église locale en question. Et on peut toujours prendre des bonnes idées ailleurs, c'est cool. Mais le but, comme pour chaque individu, c'est de faire ce que le Père fait. Et des idées et des besoins, il y en aura toujours des milliers. Et dans une église, il va y avoir autant d'idées que de personnes. Et toutes choses sont bonnes, elles sont toutes bonnes souvent. Après, l'idée, ce n'est pas de faire juste un patchwork, mais c'est de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie qu'on dessine ensemble? Il y a une image que Dieu a donnée, on va essayer de la dessiner avec les dons et les talents de chacun. Et il y a des besoins, il y a toujours plein de besoins, mais là aussi, on voit que Dieu nous appelle à être compatissants et à toucher les gens de son amour et de sa vie. Mais Jésus ne répondait pas juste aux besoins, il avait un plan. Il avait un plan, il venait donner sa vie. Et il a guéri beaucoup de gens, il a répondu à énormément de besoins. Mais parfois, il se retirait à l'écart et il a dit non à beaucoup de gens. Et il disait, même à certains, ne dites pas que je vous ai guéri. Parce que son but, ce n'était pas que ça se dise encore plus, qu'il devienne toujours le plus populaire possible pour finalement ne faire que ça. Parce que son but, c'était de venir, il avait une vision, un but, c'était de venir comme cet agneau qui allait s'offrir comme un sacrifice. Et son but, c'était aussi de former une équipe qui allait continuer son ministère quand lui ne serait plus là. Et il avait toujours ça aussi dans la mire, dans le but de ce qu'il voulait faire. Il est venu effacer le péché de l'humanité, former une équipe, mais il avait une vision claire. Et je crois qu'en tant qu'Église, c'est pareil, il faut répondre à ce mandat général que Dieu a pour chacun, pour toutes les Églises, de faire toutes les nations des disciples, baptiser-les au nom du Père, etc., de répondre aux besoins, de prier pour les gens, s'occuper des gens qui ont besoin, de chasser les démons, de guérir les malades. Oui, mais ce qui va dessiner l'itinéraire de là où Dieu veut nous amener, ce n'est pas juste les besoins, parce que ça remplirait tout notre agenda, mais c'est ce que Dieu nous demande. Et Dieu donne un mandat à l'Église, et puis donne aussi un mandat à l'Église locale. On en parlera plus spécifiquement dans 15 jours, ça c'était la petite touche Netflix, dans 15 jours quand on parlera de la vision, l'Église Passion qui brûle en particulier dans notre cœur. Mais pour conclure, j'aimerais qu'on puisse se poser une dernière question, finalement. Et ça va être utile pour nous, puis aussi pour les gens, peut-être que vous connaissez, qui se posent la question, finalement, à quoi bon faire partie d'une Église? Et c'est, mais finalement, pourquoi il faudrait vraiment faire partie d'une Église, au final? Un peu comme pour conclure ce temps ce matin. Rapidement, quelques points. Et Rick Warren, qui était pasteur d'une magnifique église à Saddleback en Californie, il a résumé ses points d'une très belle façon. Et puis je vais reprendre ces points-là rapidement, après je vais les développer moi-même. Mais ça permet que si vous avez quelque chose à réclamer, vous pourrez directement voir avec lui. Non, je rigole, mais c'est vraiment, il a bien mis les mots, donc je n'allais pas réinventer ça ou juste changer trois phrases pour dire que ça venait de moi. En premier, il a dit que faire partie d'une église... Le premier point, faire partie d'une église, ça nous identifie comme un vrai chrétien. Ça nous identifie comme un vrai chrétien. Jean 13, 35 nous dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et cet amour-là, qui va toucher le monde parce qu'il est fort et spécial, c'est pas juste un amour dans un groupe avec nos cinq meilleurs amis. Parce que dans le monde, il existe plein de groupes avec cinq meilleurs potes. Mais dans la famille, avec toutes sortes de gens, quand on se frotte les uns aux autres, quand il y a des défis. Si c'était juste être chrétien avec lesquels je me sens le mieux, avec lequel je forme mon petit groupe avec les gens où je pense tout pareil, ben cet amour-là, il ne va pas impressionner le monde. Les groupes, les clans, le monde le connaît, il sait faire. Sinon, on ferait un club de chibre plutôt, puis on serait des as. Je sais, ça pique un peu, mais ce qui compte, c'est le cœur. La deuxième raison, une famille spirituelle, elle nous oblige à sortir de notre isolement égoïste. Alors ça, c'est Rick Warren qui dit, hein, c'est pas à moi. Mais c'est, on apprend à écouter, à comprendre l'autre. on pleure avec celui qui pleure, on va rire avec celui qui rit. On ne va pas juste vivre pour sa vie, pour son appel, mais pour l'appel aussi de l'ensemble. C'est comme en sport. Les équipes qui jouent le mieux et qui gagnent, c'est celles qui jouent en équipe et pour l'équipe. Puis qui ne jouent pas juste pour « je veux marquer mon but, je veux être le meilleur buteur ». On le voit, c'est quand il y a... Ce n'est pas les équipes où il y a les meilleures individualités, mais c'est les équipes où il y a le meilleur jeu d'équipe. Et le père Henri Nouwen a dit la chose suivante, « L'Église est un lieu de transformation spirituelle où l'on peut expérimenter la grâce, le pardon et la guérison au sein d'une communauté aimante. » Et une troisième raison pourquoi finalement il faudrait faire partie d'une Église, c'est qu'une famille spirituelle, elle vous aide à développer vos muscles spirituels. Comme on a vu dans Éphésiens 4:16, le corps entier, il se développe. Il n'y a pas juste le doigt qui va faire ses exercices, mais le corps entier. L'Église, moi, je le vois aussi comme un laboratoire où on apprend à prier pour les uns, pour les autres, à prier pour les malades, à prophétiser. On le fait ça dans les groupes, on le fait ça dans les cultes, pour pouvoir enfin aussi le faire pour ceux du dehors. C'est pour ça qu'on aime bien dire « ici, on peut se tromper ». Dehors aussi, bien sûr, mais on peut s'exercer aussi ici. Et le fameux évangéliste Billy Graham a dit « L'Église n'est pas seulement un bâtiment de pierre, mais une communauté de croyants qui se rassemblent pour grandir ensemble dans la foi. » On grandit ensemble. Il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble où on grandit davantage. On s'édifie les uns les autres. L'Église, il y a un terreau qui favorise la croissance. Et quatrièmement, le corps de Christ, l'Église locale, elle a besoin de vous. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit que chacun, le Saint-Esprit se manifeste pour le bien de chacun. On a tous une place, c'est comme pour ceux qui font un puzzle, vous le mettez au mur, votre puzzle de 1500 ou 5000 pièces, ben, s'il manque une pièce, vous verrez que ça. Si quelqu'un manque, ça se ressent, quel que soit son rôle ou son don. Dans une équipe de foot, s'il manque un gardien ou un buteur, ça se verra. Enfin, ça dépend du buteur. Mais en général, ça se voit. Mais s'il manque un milieu, ou bien s'il manque un entraîneur, ou s'il manque un soigneur, ou s'il manque le concierge, ça va aussi finalement se voir. Si au Real Madrid, il manque le concierge, ils vont bien le réaliser vite, que les vestiaires, ils n'ont pas changé depuis des semaines. Pour que l'Église puisse être, agir, avoir un impact, être visible, pour que l'Église puisse être édifiée, il faut des pierres vivantes. Ensemble, on forme, tous ensemble. Et c'est pour ça que l'Église a besoin de chaque pierre. Et cinquièmement, par une famille spirituelle, vous aurez part à la mission de Christ dans le monde. Comme on a vu avant, l'Église, elle poursuit le ministère de Jésus. On est son ouvrage pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, pour être cette maison remplie de la présence de Dieu ensemble, par laquelle les gens vont découvrir Dieu, dans Éphésiens 2, 20. Et Dieu a choisi de poursuivre justement son ministère, pas juste par des individus ou 12 apôtres ou 12 gaillards, mais par l'Église. C'est le plan de Dieu. Et ça nous permet de continuer bien plus largement encore le ministère de Jésus. Et enfin, une famille spirituelle vous aidera à ne pas céder à la tentation. Hébreux 3, 13 nous dit de nous encourager les uns les autres afin de tenir bon. Ça c'est le micro, mais de tenir bon. Et je pense que c'est important, si on en voit un qui se refroidit, de dire hey, « ne te laisse pas refroidir, hey. » Et puis qu'on puisse s'encourager les uns les autres, se motiver. On est plus forts ensemble. Des fois, on pense que tout seul, ça va aller. Mais une étincelle, une petite flamme toute seule, elle peut vite être éteinte. Puis des fois, on croit que seul, ça va aller. L'autre jour, on revenait, il y avait dans notre village, enfin, c'était pour la commune, une fête du village, un festival. Puis pour y aller... On marche 15 minutes, 20 minutes, puis pour revenir, ça finissait, il faisait nuit, on doit passer derrière le château, là où on habite, c'est dans une forêt, il y a un goulet, il y a un petit ruisseau, il fait sombre, puis on était là avec nos petites lampes d'iPhone pour voir où on marchait, puis on est ensemble, il n'y a pas de souci, on marche, on descend, puis je leur ai dit, vous seriez comment si vous étiez tout seul ici? Parce que quand on est seul, tout à coup, on voit tout ce qui nous entoure, chaque bruit, craquement d'arbres et tout. On serait vite impressionné, mais ensemble, on est là, on allume, on rigole, il n'y a pas de souci. Ça, c'est juste une image, hein, mais ensemble, on est plus fort que si on est seul, intimidé par l'ennemi qui rôde autour de nous. On a besoin des uns des autres. Et comme j'aime le dire, en vivant notre foi solo, on est comme des braises isolées. On est comme des braises isolées. Et on a vite fait de s'éteindre. des petites braises, ça éclaire pas non plus très loin. Mais ensemble, on reste embrasés pour avoir un impact. Une image que j'ai déjà aussi utilisée, mais que j'ai vraiment à cœur. On reste en feu, on a un impact, et c'est visible de loin. Une lumière qui fait reculer les ténèbres. Si vous allumez un feu, c'est vrai que les loups maintenant sont là, mais on n'a pas pensé à allumer un feu l'autre jour dans la forêt. Mais vous allumez un feu, les loups s'en vont. Et je crois qu'ensemble, on a un impact aussi pour illuminer les ténèbres, plus que juste d'allumer une torche. Bien sûr, une torche, ça fait déjà son effet. Mais si on met tous ensemble les bûches que nous sommes, ça a aussi son effet dans la région. Combien de temps une torche peut être allumée toute seule face au vent, face aux intempéries, face aux saisons de la vie? Et on n'est pas juste des lumignons à gauche, à droite, mais on est une famille, on est un foyer, on est un feu ensemble. Et pour terminer ce message et mettre une conclusion à ce message ensemble, mais aussi pour répondre à cette question finale, pourquoi l'Église? Je citerai Mère Teresa qui a dit, et on va le voir s'afficher, « Faire partie d'une Église offre une opportunité de servir les autres, de contribuer à la société et de vivre sa foi de manière concrète. » Et ce n'est pas juste chez soi, mais à un moment donné, on va pouvoir servir les autres, on va pouvoir être encouragé par les autres, on va pouvoir ensemble avoir un impact aussi, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et je crois que ce matin, Dieu désire vraiment nous donner ce cœur de la famille spirituelle qui est dans le cœur de Dieu, même s'il a envie d'avoir une relation personnelle avec chacun. Et si on venait juste à l'Église, puis qu'avec ça, mais qu'on n'a pas de relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas le but non plus. Par contre, si on a juste une relation avec Dieu, mais qu'on ne fait pas partie de ce plan et de cet ensemble de Dieu, ce n'est pas non plus le but non plus. Et là, je ne suis pas en train de prêcher pour notre paroisse, je suis en train de prêcher pour le cœur de Dieu. Et j'en suis vraiment convaincu. C'est pour ça qu'il y a 2-3 ans, on a vraiment eu à cœur, vraiment de commencer cette Église, vraiment parce qu'on s'est laissé toucher par ce rêve de gens passionnés qui ont le feu puis qui se mettent ensemble pour avoir un impact dans cette région et pour être toujours plus en feu, parce qu'on a besoin d'être encore bien plus enflammé. Et c'est ce qu'on désire, de vivre l'ensemble et de former une famille. Amen. Et Seigneur, je te remercie parce que tu aimes l'Église, tu t'es donné pour elle, tu l'aimes comme ta fiancée était tellement impatiente des noces de l'agneau. Et tu te réjouis chaque fois qu'on te chante, chaque fois qu'on te parle, chaque fois qu'on fait un culte, ton cœur vibre comme un fiancé qui aperçoit sa fiancée. Et Seigneur, on veut saisir ce cœur que tu as pour l'Église en général et pour la famille spirituelle, pour le corps, pour l'épouse qu'on forme. Merci parce que c'est dans ton cœur, dès le départ, tu as travaillé ensemble, en groupe. Et Seigneur, on veut se laisser toucher au-delà de l'individualisme, mais on veut avoir ce cœur aussi collectif qui est en toi. Amen.
Amen. Merci pour ce message précieux. Ouais, je crois qu'on peut l'applaudir. Il y a vraiment des fondements qui ont été reposés pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'Église. Je crois que ça a été une lumière et bien éclairée, en tout cas, on a bien compris ce que c'est. Et si vous avez encore des questions, on est aussi disponible pour répondre à vos questions.